aujourd'hui?
Ah, écoute, c'est un ami d'études universitaires, là, donc c'est quelqu'un de très, très proche de lui. Tu sais que les premiers ministres, bon, tu as toujours un entourage, un chef de cabinet, quelqu'un aux communications, mais tu as toujours un conseiller spécial et souvent, le conseiller spécial emmène large parce qu'il est souvent très proche du premier ministre, là, qui va au-delà des obligations professionnelles. Dans ce cas-là, c'était vraiment un ami personnel et on comprendra par cette démission que M. Botts est celui du bureau de Justin Trudeau qui a parlé du dossier de SNC-Lavalin à l'ancienne ministre Judy Wilson-Raybould et que c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a démissionné. D'ailleurs, il a démissionné en disant qu'il n'avait rien à se reprocher dans ce dossier-là. Donc, il s'attend à ce que Mme Raybould éventuellement parle et disent que j'ai reçu des pressions de M. Botts du bureau du premier ministre. Donc, c'est vraiment pour ça que M. Botts a démissionné, là, parce que c'est, semble-t-il, en tout cas, on peut penser que c'est vraiment lui, là, qui a parlé à Mme Raybould et plutôt qu'ils ont anticipé, plutôt que d'attendre qu'elle parle, puis que là, il démissionne après ou que ça fasse toute une histoire, puis que là, M. Trudeau a beaucoup de pression. Ben là, il a dit, garde, pour la bonne gestion de cette crise-là, vaut mieux que je le fasse tout de suite. Puis
avec,
que,
avec sans doute une bonne prime de départ, même si c'est une démission.
Ah, ben ça, ça change rien. Le personnel politique, c'est très normé, là. Je veux dire, c'est selon son nombre d'années.
OK.
Je sais pas, là, je pense que c'est un mois tous les 6 mois. En tout cas, bref, mais je pense pas que ça entre en ligne de compte, là. Ce que je veux dire, c'est que lui, là, il va être au moment où la nouvelle va sortir, parce qu'on fait de l'anticipation, on n'a pas toutes les interventions, mais on présume que c'est ça, quand son nom va sortir comme étant celui qui aurait fait pression sur Mme Wilson-Raybould, ben, il va pouvoir se défendre en étant détaché, comprends-tu, du premier ministre. Puis le premier ministre va dire, ben oui, c'est M. Botts, mais il n'a jamais fait de pression indue. Puis là, ça va être la question qui va être posée, si c'était-tu de la pression indue, oui ou non. Puis je te rappellerai que ça, ben, c'est pas l'opposition, c'est pas les médias qui vont le déterminer. C'est probablement le commissaire à l'éthique qui est en train d'enquêter là-dessus, là, qui mène une enquête là-dessus. Et l'autre chose que là, cette semaine, par rapport à cette crise-là, qui devra être faite cette semaine, ben, c'est parce que là, c'est pas juste la question, Michel, l'enjeu de l'indépendance judiciaire. Je te rappelle que l'enjeu aussi, c'est de sauver 3400 emplois de SNC-Lavalin au Canada, là.
Oui.
Donc, est-ce que, oui ou non, le nouveau ministre de la Justice va utiliser là la fameuse clause là, dans la loi qu'ils ont ajoutée là pour entente de réparation, je me rappelle plus du terme exact, accord de réparation, pour exonérer SNC-Lavalin là d'une poursuite au criminel, là, donc ce qui lui permettrait de continuer d'opérer puis de soumissionner auprès du gouvernement fédéral. Ça, c'est l'autre chose qu'il va falloir suivre cette semaine, parce que j'ai l'impression que M. Trudeau, là, il s'est dit, cette semaine, c'est le crunch, c'est là qu'on y va, parce qu'à un moment donné, on peut pas éterniser cet enjeu-là, cette crise-là, là, encore sur plusieurs semaines. Là, il faut que ça se passe.
Faut que ça se règle le plus vite.
Ça, il va manger le coup cette semaine.
Après ça, on passe à autre chose. Maternelle de 4 ans, tu veux revenir là-dessus?
Ben, moi, c'est... Bon, je suis favorable au maternelle de 4 ans, quoique, comme bien du monde, je me pose des questions, bon, comment il va réussir à faire tout ça, mais bon, un gouvernement qui a une priorité, on parle de construire des classes puis de trouver des professeurs, c'est quand même pas mission impossible, mais c'est difficile. Mais au-delà de ça, ce que j'aime, c'est que là, enfin, on a un vrai débat sur l'éducation, parce qu'avant, les débats sur l'éducation, c'était coupure, oui ou non, puis tu sais, il n'y avait pas de débat sur quels sont les moyens que l'on doit utiliser pour réduire le décrochage scolaire. Hein? Parce que, on se le rappellera, là, si on compare à l'Ontario, je pense qu'on est 20% on a 20% plus de décrocheurs scolaires au Québec qu'en Ontario. En tout cas, quelque chose comme ça, là, de mémoire. Et en Ontario, ils ont la maternelle 4 ans. C'est pour ça que M. Legault et la CAQ en ont fait une priorité électorale, non seulement une priorité, un engagement électoral, mais que M. Legault a même mis son siège en jeu sur cette question-là. Et là, on en débat, tu sais. Mais il y a autre chose d'intéressant. C'est que là, il y a un débat, donc c'est la preuve que l'éducation est une priorité. Mais l'autre chose, c'est que je pense que au-delà de ça, ça sonne la fin pas mal du corporatisme au Québec, parce que là, je sais pas si tu as écouté hier la conférence de presse de la Fédération là, des intervenants, en petit emploi, en tout cas, qui représentent les CPE, là. Tu sais, bon, qui disent on n'en veut pas, puis qui défendent.
Ben, les autres, ils prêchent pour leur paroisse, c'est normal.
Ben oui, exact. Mais ça, c'est de bonne guerre, c'est normal, on est habitué. Mais là où ils ont, selon moi, là, ils ont traversé une ligne qu'ils n'auraient pas dû, c'est quand ils ont commencé à répondre aux journalistes, parce que les journalistes disaient, le gouvernement est quand même légitime, là. Je veux dire, c'est sa promesse électorale. Vous ne demandez toujours bien pas de renier sa promesse. Ils ont dit, pas tant que ça. Tu sais, on regarde des sondages, là. C'est pas clair que les gens ont voté pour ça. Ça veut dire que tu remets en question la légitimité du gouvernement. Parce que, imagine-toi donc, Michel, s'il faut qu'après chaque élection, on se dise, les Québécois, ils ont-tu vraiment voté pour cet engagement-là ou plutôt sur l'autre, tu sais? On n'en sortira pas.
Ben non.
Et un gouvernement, tu peux être contre ses politiques, tu peux même dire que ses engagements électoraux, tu peux même lui demander de ne pas les respecter, mais tu ne peux pas remettre en question sa légitimité d'agir sur ce dossier-là en disant, c'est pas si vrai que ça que les gens ont voté pour ça. Ça, là, je pense que là, on a franchi un pas. Puis pourquoi je dis ça? Je sens un peu d'écœurement dans la population. La semaine passée, c'était les récréations, les syndicats sur les récréations de 20 minutes. Là, c'est la fédération. Puis là, check bien ça, Michel, tu vas voir le Collège des médecins sur les super infirmières. Et je sens dans la population qu'il y a comme un déclic qui dit, là, ça va faire. Là, on a un immense décrochage scolaire. On a des listes d'attente dans la santé. Fait que les vieux discours corporatistes, là, de dire, c'est pas possible. C'est donc
difficile. Tant mieux si on s'en va vers ça, ce que tu dis.
Je pense que le monde en a marre. Puis j'écoutais ce midi Jean-François Roberge, le ministre de l'Éducation, puis il avait l'air aussi à se dire ce discours-là, de dire, regarde, je suis bien prête à leur parler, je suis bien prête à leur consulter, mais c'est pas vrai, je vais reculer. Là, bon. Je veux dire, il y a eu une campagne électorale. Donc, tout ça pour te dire que le débat public commence à changer au Québec. Là.
Bon, tant mieux. Hey, en 30 secondes, un petit mot quand même sur les nids de poule et Daniel Champagne.
Ben oui, écoute, vendredi matin, j'ai fait une chronique avec Michel Langevin où je comprenais pas trop l'interview qu'avait fait de Daniel Champagne sur les nids de poules en face du boulevard boulevard de l'hôpital, sur la véranderie ou dans le coin du boulevard de l'hôpital. Et finalement, comment ça se fait qu'on bouge pas temporairement les nids de poules? Ben, figure-toi donc que
c'est fait, là.
Semble-t-il que vendredi, ça s'est fait. Monsieur Champagne a réussi à faire boucher les nids de poules. Donc, bravo, M. Champagne. Il a réussi par ses interventions à ce que les nids de poules se bouchent. Je ne suis pas passé, là, mais j'ai vu un statut Facebook, puis lui m'en a parlé vendredi. Donc, bravo à M. Champagne.
Ouais, mais tu sais,
il y a des nids de poules de boucher. Puis, dans le fond, c'est ça l'intervention politique, ça, je voulais dire. Quand un élu intervient, puis ça marche, bien, il faut le féliciter, puis il faut dire aux élus, n'hésitez pas à mettre de la pression.
Et tu sais, oui, c'est bouché temporairement. C'est comme un gros plaster, mais on le sait, et c'est ça qu'on veut. D'ici à ce qu'il y ait des réparations majeures, c'est pas vrai qu'on peut pas, si tu me permets l'expression, patcher temporairement une nid de poule. Tout se fait, puis tant mieux si ça s'est fait.
Bravo, puis c'est dans ce temps-là, puis les élus n'hésitaient pas à exiger, parce que souvent on a l'impression que c'est la ville qui mène. Ben faites-le, puis mettez de la pression, puis les médias sont là-dessus, puis à un moment donné, ben ils n'ont pas le choix de boucher parce que ça n'avait pas de bon sens de laisser ces trous-là.
Et dans 100 ans, il n'y en aurait plus de nid de poule au Québec. OK. Merci, Nicolas.
Au plaisir, Michel.
Salut, Nicolas Brisson, il est 16h20.